Une vie, une œuvre, Krzysztof Kieslowski, 1941-1996, Varsovie. Krzysztof Kieslowski naît dans une famille fragilisée par la santé du père, Roman, qui est tuberculeux. Après être entré au collège des techniciens du théâtre de Varsovie, c'est en partie pour plaire à sa mère, Barbara, qu'il intègre en 1964 l'école de cinéma de Lodz. Deux ans plus tard, il tourne Le Tramway et Le Bureau, deux films d'études. Dans ses documentaires, il souhaite briser les tabous d'un monde sans représentation. En raison de la censure, il doit louvoyer. Il écrit « Pendant 10 ans, j'ai fait des films documentaires. J'ai aimé ce genre et je l'ai abandonné avec honte et regret. » Au milieu des années 1970, il se tourne vers un cinéma plus fictionnel. En parallèle, il s'adonne à la littérature et aime pratiquer le ski avec sa fille. En 1988, « Tu ne tueras point », extrait du Décalogue, est primé au Festival de Cannes. Il réalise ensuite en France la trilogie « Bleu, blanc, rouge », enchaîne les récompenses, avant d'annoncer en 1993 qu'il ne souhaite plus filmer. Dominique Prusak signe, avec Anna Schmuck, « Une vie, une œuvre », Krzysztof Kieslowski.
Monica, c'est bon ?
Non, non, on va faire 100 répétitions alors.
100 fidèles.
Mais il y a
tu m'as mis d'acquis de l'année. Il y a pas
été. Tiens, Gilles, un café, un
café. 80 sur 8, première. Action.
Ici. Nous sommes au 11 de la rue Colincourt, devant nous le pont qui enjambe le cimetière Montmartre. Nous sommes dans le quartier du Sacré-Cœur. Alain Martin, vous êtes journaliste et écrivain. Vous êtes aussi l'auteur de plusieurs ouvrages très documentés et abondamment illustrés sur le cinéma et la vie de Krzysztof Kieslowski. Alors pourquoi nous avoir amené ici ?
Alors en 1992 et 1993, Marine Karmitz et donc sa société proposent à Kieslowski de tourner Les Trois Couleurs. Et donc il lui faut un pied à terre et il lui trouve cet appartement qui est juste en face du cimetière Montmartre. Et il va habiter là de manière régulière, même s'il reste polonais, il retourne régulièrement en Pologne.
L'appartement est situé en haut de l'immeuble avec un petit balcon, c'est sensationnel.
Voilà, alors de là on voit la tour Eiffel, la tour Montparnasse et maintenant le palais de justice.
Et puis le cimetière.
Et le cimetière.
En tout cas, ça devait le changer de la Pologne et de son lieu de naissance. Krzysztof Kieslowski.
Krzysztof Kieslowski.
Pour l'amour de l'autre.
Przyjemnej zabawy. Tego miasta nie ma na mapie, lecz przecież gdzieś chyba jest.
Comment il a découvert le cinéma, Kieslowski ?
Alors, la relation de Kieslowski au cinéma, ça vient très, très doucement. Et effectivement, quand il est enfant, il a pris l'habitude avec des copains de monter sur le toit du tout petit cinéma qui est en fait une maison de la culture, hein, puisqu'on est, dans la République populaire de Pologne, dans le sud de la Pologne. Et il monte sur ce toit pour essayer de voir un peu de l'écran où sont projetés les films, parce que même si le cinéma et la culture sont censés être bon marché, les parents de Kieslowski sont très pauvres. Il faut parler de sa vie familiale, puisque son père, qui est ingénieur, est malade de la tuberculose. Et donc, il déménage de ville en ville, en camion, en train. Période pendant laquelle il va beaucoup lire, donc il va vraiment s'imprégner de toutes sortes de littérature, de la bonne, de la mauvaise, mais en tous les cas, tout ce qui va lui permettre de construire des récits. Il y a vraiment une passion pour la lecture et puis plus tard pour l'écriture. De fil en aiguille et de sanatorium en sanatorium, il parcourt toute la région sud de Pologne. Ils aboutissent pendant plusieurs années à Sokołowsko, un endroit où il y a actuellement tous les ans un festival qui rend hommage à Kieslowski. Sa mère est employée de bureau, elle trouve à chaque déménagement, elle finit par retrouver des emplois, par exemple à Sokołowsko, comme il y a un sanatorium, elle travaille au service social. Mais le père finit par travailler à mi-temps pour ne plus travailler du tout, et donc il y a vraiment des problèmes de revenus et d'argent dans la famille. Donc Kieslowski observe le cinéma, quelquefois il voit qu'un petit morceau de l'écran, Mais ça n'en fait pas pour autant un passionné de cinéma. Il dira même plus tard, quand on l'interrogera sur l'amateur, alors Amateur, qui est un film où il décrit la manière dont le cinéma peut peu à peu prendre possession de quelqu'un. Il décrit le monde du cinéma d'amateur et il dit que lui n'a jamais été passionné par le cinéma. Même s'il a tourné en Super 8, c'était pas son truc. Ça devient finalement, par hasard, par nécessité, ça devient sa voie à l'école de Woods. Donc il produit son film de fin d'études en 69 et il sort diplômé de l'école de Woods en 1970.
Du café et de la glace ?
Comme d'habitude.
Raconter son enfance avec votre grand-père, puisque votre grand-père avait la tuberculose et que votre père allait de sanatorium en sanatorium en voyageant en bus, en car, en lisant beaucoup d'ailleurs. Il vous a parlé de cette période-là ?
Ah oui, bien sûr. Il m'a beaucoup parlé. On est même, quand je passais mon permis de conduire,
Martha
Rine, pour que je prenne un peu de l'habitude, on a pris la voiture et on est allé dans le sud de la Pologne où il a passé justement son enfance. Et donc, moi, je conduisais. Et on a pris aussi ma tante, donc la sœur de mon père. Et on est allé voir les 3 ou 4 endroits où il a vécu quand il était jeune. Et c'était absolument touchant. Mon père, il était de très bonne humeur. Donc, ils ont fait beaucoup de blagues avec ma tante. Et on faisait des blagues en général pendant tout ce voyage. Mais on a aussi vu ses copains, en fait, de l'enfance. On a vu le cimetière et le caveau de son père. Et mon père, avec son père, était très proche. Il était beaucoup influencé, à mon avis, par son père, à lui. Il le ressemblait aussi, pas mal. C'était touchant, c'était quelque chose d'important. J'avais 17 ans.
Il faut dire que le son est très important dans les films de Kieślowski. Et d'ailleurs, il est un des premiers à amener une caméra sonore sur un documentaire. Et ça fait toute la différence, parce qu'on a l'habitude de documentaires qui sont des images avec un son rapporté, avec des commentaires. Et très tôt, par exemple, dans l'usine Fabrica, il va apporter le son direct. Et il va travailler avec des bons professionnels aussi sur la prise de son. Et voilà, ça fait partie des choses qui vont enrichir sa période documentaire.
Pani, proszę wstać do gimnastyki. Ćwiczenie pierwsze, postawa, na raz ramiona w przód, na dwa ramiona w dół, na trzy ramiona w górę, na cztery
na postawy. Jacek Petrycki, vous avez été l'un des principaux caméramans et chef-op de l'époque documentaire de Krzysztof Kieślowski, essentiellement dans les années 70, car Krzysztof Kieślowski a commencé sa carrière en réalisant des documentaires ici, en Pologne, c'était à la fin des années 60. Et vous, Jacek, vous m'avez donné rendez-vous ici, à Varsovie, dans ce bar très kitsch, ce restaurant d'ailleurs, c'est aussi un restaurant, qui s'appelle Lotos.
Toutes les rencontres, toutes les idées, toutes les discussions ont été faites ici. Et aussi, on a célébré ici les premiers prix qu'on a réussi pour nos documentaires. Avant, on peut dire qu'il était unique, Kieślowski, car il était le seul qu'il a partagé le prix. Parce que c'était notre presque seul moyen de vivre, les prix. Parce qu'on n'a presque pas reçu des salaires, parce que tous les films qu'on a faits ont été interdits. Alors, si le film est interdit, tu ne reçois pas de l'argent.
Mais Jacek, comment peut-on faire des films, réaliser des films documentaires sous un régime qui pratique la censure ?
On a inventé la langue métaphorique. On n'a jamais fait des films directs contre la partie communiste, par exemple. Mais c'était toujours les films sur les petites choses, les petits problèmes entre le pouvoir et la société, mais toujours sur des exemples très ordinaires. Ce n'était pas le chef, ce n'était pas les secrétaires du Parti communiste, nos héros, mais c'était le gens simple, le gens à l'usine ou à l'école ou à l'hôpital. C'était la première raison. Et la deuxième raison était que le pouvoir toujours voulait avoir des films cachés, préparés pour sortir si quelque chose arrive. Alors, il voulait faire des films critiquant un peu le système. Il n'était pas diffusé, mais le principe, c'était que les autorités étaient prêtes que s'il y a le changement, s'il y a le changement de secrétaire général, par exemple, on a dit, ah bon, jadis, on avait fait des fautes. Maintenant, ça sera mieux.
Christophe Zanussi, comment Krzysztof Kieślowski est passé du documentaire à la fiction et pourquoi ?
Il est allé en documentaire jusqu'à la limite d'intervenir dans la vie de ses protagonistes. Et il avait peur qu'il joue les bons dieux. L'homme avec caméra, l'homme qui a l'accès à l'écran public, peut modifier la vie de ses personnages. Et il avait beaucoup de scrupules. Il considérait que ça c'est très dangereux, que c'est moralement douteux. Et après il m'a dit, j'ai peur. Je vais traiter la vie avec les moyens des fictions, parce que dans ces cas, je ne confonds pas la réalité avec la chose imaginaire. En documentaire, il n'y a pas de cette limite, il n'y a pas de cette division, et on risque de jouer un rôle interdit pour l'artiste. Le rôle de quelqu'un qui crée la réalité. Et quand il a commencé à faire la fiction, il continuait aussi à faire de temps en temps des documentaires, mais toujours avec cette précaution de ne pas toucher trop profondément les réalités.
Suite du parcours parisien de Krzysztof Kieślowski, nous voici installés au Wepler. Le Wepler, c'est la grande brasserie de la place Clichy, tout en rouge. Alors, la première question, l'aurait-il utilisé pour rouge ? Non.
Ici, on a uniquement tourné les scènes de blanc. Blanc, c'est un volet un peu particulier des trois couleurs, puisqu'on retourne en Pologne. Donc, effectivement, on peut penser que Carol, le personnage principal, est un peu l'alter ego de Kieślowski, puisqu'il oscille entre Paris et Varsovie. Et le Wepler, pourquoi ? Parce que pour Kieślowski, c'était un quartier général. Il en a fait son bureau. Et la plupart des techniciens, ou même des comédiens, il va les rencontrer ici. En ce qui concerne Blanc, il va venir ici plusieurs fois, puisque plusieurs séquences importantes de Blanc sont tournées ici. Et notamment celle où Carol, qui est jouée par Zbigniew Zamarowski, un grand acteur polonais, observe son épouse, Dominique, qui est jouée par Julie Delpy. Il la voit en train de faire l'amour avec un autre homme en ombre chinoise, et surtout, il l'entend au téléphone. Alors le téléphone, c'est un objet, il y a plusieurs objets qui reviennent dans le cinéma de Kieślowski. Le téléphone, bien sûr, instrument de communication. On le voit souvent et on entend souvent les problèmes de communication que peut engendrer le téléphone.
Allô ?
Allô ?
Tak, słucham.
Dzień dobry. Dobry wieczór. Nie mogłem się dodzwonić do państwa, czy zastałem Mariusza?
Nie ma go. A kto mówi?
Kolega z fizyki.
Et dans le neuvième volet du décalogue, qui est sur le thème de la jalousie, on a vraiment beaucoup d'interventions du téléphone, à la fois comme moyen de communication entre Romek et son épouse, mais aussi comme moyen d'observation pour Romek, qui est jaloux de son épouse. Romek est impuissant, donc il propose à son épouse de trouver un autre homme, mais en même temps, naturellement, il est jaloux. Donc c'est une histoire un peu complexe.
Christophe Zanussi, comment est née la série du Décalogue ?
Bien, c'était une idée géniale de Krzysztof Kieślowski et appuyée avec Krzysztof Piesiewicz, c'est son co-scénariste. Bien, ce sont des 10 anecdotes différentes, avec les personnages différents. Alors, c'est une anthologie, ce n'est pas une série. Mais chaque épisode avait une construction forte d'une anecdote cinématographique, anecdote avec l'action vif, et avec un problème qui correspondait assez précisément à un des commandements.
Dorotka? Dorotka, jesteś?
Le cinéma de Kieślowski est toujours très incarné. C'est-à-dire que toutes ces idées sur la communication, sur l'empathie, ça pourrait finalement virer à un cinéma un peu abstrait, mais pas du tout. Sa période documentaire est importante. Pendant cette période en Pologne, il va observer longuement des gens de la province, des gens de Varsovie, des gens dans les bureaux, dans les usines, dans la rue. Et puis progressivement, il va passer à la fiction. Mais il va garder quand même cette attention aux gens et aux choses. Et il va toujours s'arranger pour que son récit, il passe par quelque chose de franchement charnel. C'est-à-dire un geste, un détail, une main. Il y a beaucoup de gros plans sur des objets.
Martha Rignac.
Lui, en tant que père, comme tous les pères d'ailleurs, nous donne des leçons de vie. Il le peut répéter plusieurs fois par jour, des fois. Sois attentive avec les gens. Et ça, c'est quelque chose que j'ai retenu et que j'essaye d'apprendre ça à mes filles. Je trouve ça super important. Il m'a dit aussi une chose rigolote à laquelle je pense très souvent. C'est qu'à l'époque, on avait des téléphones avec des spirales. Et quand je passais beaucoup de temps avec mes copines au téléphone, et le fil, il était toujours complètement...
comment dire ? Emmêlé.
Emmêlé. Et mon père, il était furieux à chaque fois. Il me disait, mais fais attention à ça. Tu peux très bien arrêter la conversation. Et puis après, redonner la spirale au fil. Et une fois, il m'a dit, un jour, je ne serai plus là. Et à chaque fois, quand tu vas terminer la conversation au téléphone, tu vas... refaire le fil. Et bien sûr, maintenant, on n'a plus ces téléphones-là, mais à l'époque, on les avait. À chaque fois que je terminais la conversation, il n'était plus là. Et je pensais à lui et je refaisais le fil. Et je pense très souvent à ce moment-là, à cette phrase-là, pas forcément connectée aujourd'hui au téléphone, mais plus aux situations différentes, à mes pensées différentes. Et j'y pense souvent.
Krystyna Janda, vous êtes l'actrice polonaise la plus connue des Français à travers le cinéma d'Andrzej Wajda. On se souvient de votre rôle de reporter de télévision dans L'Homme de Marbre et L'Homme de Fer. Mais vous êtes aussi l'héroïne du Décalogue 2 de Krzysztof Kieślowski. Comment peut-on expliquer le succès du Décalogue aussi bien en Pologne que dans le monde entier ?
Je pense que le problème de Kieślowski et le problème contenu dans toute cette série de films étaient très proches à l'époque des gens. En plus, il a fait ça dans le décor, dans l'entourage les plus simples, les plus crus de l'époque.
Dans ce film, vous jouez le rôle d'une femme partagée entre deux hommes, un mari qui est atteint d'un cancer et qui va peut-être mourir, et un autre homme duquel vous êtes enceinte. Si votre mari décède, vous gardez l'enfant, sinon vous avortez. Que vous a dit Krzysztof Kieślowski pour jouer ce rôle majeur ? Parce qu'en fait, c'est vous qui portez le film sur vos épaules.
Krzysztof Kieślowski portait son attention pas uniquement sur tous les détails concernant la vie quotidienne, mais également toutes les grandes nuances du fond psychologique du film. Et dès les débuts de la réalisation du film, il me parlait de ces nuances dans l'interprétation du rôle.
Ja rozmawiałam głównie z Krzysztofem Kieślowskim.
L'essentiel de mes conversations avec Kieślowski, c'était donc les sentiments. Tak, voilà, je pourrais dire ça comme ça.
Był to wybór
il s'agissait d'un choix entre la vie et la mort.
Et Krzysztof
m'a dit cette chose essentielle, que tous ces doutes, toutes ces interrogations devaient se jouer sur mon visage. Et je savais très bien quelle est ma tâche. Mais Krzysztof fondait tous ses films sur une vérité, vérité très profonde. On peut même dire une vérité documentaire. On même disait de Kieślowski que c'est un réalisateur qui fait rebondir le détail à la grandeur d'une tragédie grecque. Et j'avais cette impression en interprétant qu'il guette mes larmes. Après les prises, il me serrait dans ses bras, il me remerciait. C'était un homme exceptionnel.
Alain Martin, en général, dans le cinéma, les trains et les gares sont des incontournables quand on tourne un film. On retrouve souvent ces décors-là. Mais ici, c'est plutôt le son qui intéressait Krzysztof Kieślowski. Dans cette gare Saint-Lazare où nous nous trouvons actuellement.
Absolument, parce que il y avait quand même un challenge, c'était de raconter une histoire très très improbable. Véronique a rencontré un marionnettiste dans La double vie de Véronique. Et cet alter ego de Kieślowski, quelque part, qui est un manipulateur, quelqu'un qui écrit des histoires, il fait quelque chose de presque incroyable, c'est-à-dire qu'il envoie une simple cassette, puisqu'on est encore à l'époque des cassettes audio, il envoie une cassette dans une enveloppe à Véronique, et uniquement à cause des indices sonores qui sont disposés dans cette...
Grâce, même.
Grâce à ces indices sonores de la cassette, Véronique va réussir à retrouver le marionnettiste. Et par exemple, en arrivant, elle débarque à Saint-Lazare, même si elle vient de Clermont-Ferrand, donc là, il y a une petite incohérence. Elle demande à un cheminot, est-ce qu'il y a un endroit d'où on peut prendre un café et en même temps entendre les annonces des trains. Et c'est ce qui va conduire dans le café où, depuis plusieurs jours, deux ou trois jours, le marionnettiste, incarné par Philippe Voltaire, l'attend. Et elle va découvrir, elle qui pense peut-être à quelque chose comme une histoire d'amour, elle va découvrir qu'en fait, s'il l'a fait venir ici, c'était uniquement pour voir, entre guillemets, si c'était possible. Est-ce qu'il était possible qu'une femme qui trouve une cassette dans une enveloppe fasse le trajet de Clermont-Ferrand à Paris pour le retrouver ? Ce qu'il faut dire aussi, c'est que je parle de challenge, parce que vraiment, ce qui paraissait peut-être simple sur une demi-page de scénario, qui était d'enregistrer une cassette avec quelques bruits pour faire venir une personne dans une gare, ça s'est avéré très très compliqué. Comment est-ce qu'on peut donner suffisamment d'indices sur une cassette sonore pour faire venir quelqu'un jusqu'à un lieu précis ?
Irène Jacob, vous êtes un peu l'actrice française fétiche de Krzysztof Kieślowski, parce que vous avez joué dans son premier film tourné en France et en Pologne qui s'intitule La double vie de Véronique, et dans son dernier film, à la fois français et à la fois le dernier film de sa vie, qui est Rouge.
pour le film rouge, on a commencé par toutes les scènes avec le juge, donc joué par Jean-Louis Trintignant. Et ce sont des scènes d'affrontement. Où moi, justement, par la volonté, je retourne dans ce lieu qui m'a choquée, qui me révolte, et j'y vais parce que je veux comprendre qu'est-ce qui me révolte et pourquoi est-ce que ça... Enfin, voilà. Et du coup, on riait parce que c'est vrai que Christophe se mettait souvent vraiment juste entre nous deux. C'était vraiment une espèce de ping-pong, de match, où tout d'un coup, il voulait que mon personnage, elle, remporte à ce moment-là le morceau. Puis à ce moment-là, c'était Jean-Louis qui ramassait le morceau. Enfin, je veux dire, c'était vraiment une espèce de balance qu'il découvrait sur le moment. C'était assez... et qui se faisait. Mais il fallait venir quand même super chargé chaque jour parce que il y avait des scènes très... violente et révoltée. On peut avoir que pitié de vous. Enfin, il y avait vraiment des moments où on sentait qu'il fallait que ça aille quand même loin. Je me souviens que, par exemple, un soir, on avait terminé la scène et puis tout d'un coup, c'était une scène vraiment assez violente. Et il nous manquait mon gros plan. Elle a dit, bon, c'est pas grave, on le fait demain matin. Je me suis dit, oh là là, je vais devoir garder cette colère toute la nuit. Enfin, je vais devoir garder tout ça toute la nuit. Ah, et puis j'avoue que c'est... Il y avait des scènes qui paraissaient tellement violentes que il y a quand même certains soirs où je suis rentrée et je pouvais même pas avaler un verre d'eau, quoi. Je vomissais tout. Je m'est arrivé, en tout cas, un soir en particulier où j'avais cette impression, voilà, j'avais l'impression d'être une espèce de murène.
Quel cauchemar avez-vous fait ce fameux jour où il fallait remettre la scène au lendemain matin?
J'ai pas fait de cauchemar, mais je me souviens que le matin, je me suis réveillée. J'ai dû bien prendre 4-5 cafés. J'ai dû fumer quelques cigarettes, essayer de me remettre dans cet état, parce qu'à la fin de la journée, on était en nage, quoi. C'était une scène vraiment costaud, donc il fallait la retrouver, voilà, à 7h30 du matin. Mais j'étais motivée, quoi. Je suis arrivée.
Je me penche et je touche avec mes lèvres.
Qu'est-ce que vous faites?
C'est l'endroit que tu préfères.
J'espionne.
Quoi?
J'espionne les conversations téléphoniques de mes voisins. Il fallait pas couper. C'était très intéressant. Ça n'a pas l'air de vous amuser.
C'est dégoûtant.
Oui. Et en plus, c'est illégal.
Ensuite, c'est vrai que dans sa façon de diriger, je dis ça parce que ça parle aussi... c'était pas toujours par des mots psychologiques, vous voyez, c'était plutôt par des attitudes. Aussi, l'emplacement de sa caméra, qui était quand même très parlant. Et puis, sa présence tout près de la caméra, puisqu'il était toujours en dessous de la caméra, à côté de la caméra. Donc, il était très, très, très présent. Il faisait vraiment partie de l'image. Même, il pouvait vous toucher avant de commencer la phrase, faire une mimique avec ses mains pour demander à ce qu'on ralentisse un peu, recommencer. Et ça, je crois que ce soit aussi Jean-Louis Trintignant, la première fois, il a dit, mais il va rester aussi près, là, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai qu'il faisait partie de la scène avec nous. Et puis, encore, il y a une chose qui était très importante, c'est qu'il insistait beaucoup sur quelque chose qui avait beaucoup de tension. Parce que dans son cinéma, c'est pas comme si on se dit bonjour, au revoir, comment ça va? Enfin, toutes les choses arrivent tout de suite dans une espèce d'urgence, et dans une urgence qui fait que si on dit ça, tout va changer, et si on fait ça... Tout va changer dans un autre sens. Et du coup, on sent dans son cinéma, je trouve toujours une espèce d'urgence, que ce soit dans ses documentaires, que ce soit dans sa façon de regarder les gens, parce que tous ceux qui l'ont rencontré ont dit que son regard était particulièrement important. Enfin, une chose dont on se souvient, parce qu'il avait un regard... il attrapait, il cherchait, il allait chercher, et sa caméra de même, et certainement qu'il arrivait bien à faire passer quelque chose.
J'aime beaucoup ce morceau. C'est un compositeur très intéressant qui vient d'être découvert alors qu'il vivait il y a plus de 2 siècles en Hollande. On y va? 1, 2. Pa, pa, da, da.
Jamais il allait nous dire, ni pour le film rouge, ni pour la double vie de Véronique, pourquoi il avait pensé à cette image. Ou, c'était pas ça. Il me demandait plutôt à l'heure, qu'est-ce que tu penses qui se passe dans cette scène? Alors je lui disais, voilà, je pense qu'il se passe ça. Il me dit, est-ce que t'as... Parce qu'il m'avait demandé de trouver des gestes qui pouvaient exprimer ce que je ressentais dans la scène. Et ça, je pense que c'est vraiment toute cette école, donc Grotowski aussi, de vivre par le corps, de nourrir un personnage par le corps, de l'incarner, et que la chair soit vraiment présente à l'écran, que ces sensations de chaud, de froid, de se gratter, d'être, de tout ça, de trouver quelque chose qui soit vraiment dans... Il en avait mis beaucoup de gestes dans son scénario, mais il me demandait aussi d'en mettre quelques-uns. Et voilà, ce qui intéressait, c'est de voir comment ça passe par moi. Voilà. Et puis, il y avait une chose qu'il disait, qu'avec la censure, il avait toujours dû, lui... Ça, je l'ai entendu dans des interviews, c'est pas ce qu'il me disait, parce qu'il parlait pas comme un livre ou ni de son cinéma. Mais j'ai compris ça, qu'effectivement, dans la censure, ils s'étaient habitués à travailler en disant qu'une partie des choses, puisqu'ils n'avaient pas le droit de tout dire. Et qu'ils s'habituaient à ce que le public continue la phrase. Et il disait, moi, maintenant, il n'y a plus la censure, mais je ne peux pas travailler autrement. Je ne dis qu'une partie des choses et j'attends que le public fasse son histoire. Et je crois que si ces films continuent à être beaucoup montrés dans beaucoup de pays, passent le temps, c'est qu'il y a une partie de ce film que chacun peut nourrir de sa propre façon. Elle est ouverte aux interprétations.
J'ai une... Papier, convocation.
Convocation, cela, monsieur.
Ça résonne ici. Un cri d'enfant prend du volume. On n'est pas n'importe où, on est dans un endroit où l'on rend la justice, où a tourné Kieślowski. Qu'est-il venu faire ici, Alain Martin?
En fait, c'est une journée particulière, puisque ça se passe en une seule journée. Et on tourne à la fois un épisode court de bleu et le début de trois couleurs blanc. Comme dans beaucoup de films de Kieślowski, y compris le Décalogue, il y a des croisements par hasard, organisés par le scénariste, bien sûr, entre les personnages. Et donc, quand commence le film blanc, on découvre un petit individu avec un imperméable à la Colombo qui va péniblement rejoindre la salle où se déroule le procès contre son épouse, puisque apparemment le mariage n'aurait pas été consommé. Donc Carole, c'est le héros qui est joué par Zbigniew Zamarowski, arrive ici en plein palais de justice, donc il tombe dans cette grande salle avec cette acoustique très, très particulière.
Haut de plafond.
Et donc, que se passe-t-il ici? C'est un fait unique dans la trilogie. On a deux équipes de tournage sur place, parce que c'est le moment précis où Julie, qui cherche la trace de la maîtresse de son mari, qui est avocate au palais de justice, entre par mégarde dans la salle où se déroule le procès de Carole.
Julie, c'est dans bleu. Carole, c'est dans blanc.
Voilà, un croisement de personnages. Donc il va y avoir deux croisements de personnages qu'adore Kieślowski. Il va y avoir cet épisode au palais de justice. Et puis il va y avoir l'épisode final de Trois couleurs rouges, cette fois-ci, où plusieurs héros de la trilogie se retrouvent rescapés d'un naufrage où tous les autres périssent.
Pouvez-vous nous dire les raisons concrètes pour lesquelles vous demandez le divorce ?
Concrète ?
Oui, concrète.
Votre mariage n'a pas été consommé.
Nous sommes ici au Palais de Justice de Paris, lieu très inspirant aussi pour parler de la loi, de la justice, de l'éthique, de la morale et de Pichevitch qui est arrivé dans l'univers kieślowskien. Après quel film et pourquoi faire, Alain Martin ?
Il y a, dès même avant le Décalogue, dans un film qui s'appelle Sans fin, une collaboration qui va devenir constante entre Krzysztof Kieślowski et Krzysztof Pisiewicz. Pisiewicz, c'est un avocat qui a défendu des causes, notamment les procès politiques de Solidarność. Il suffit de regarder tous les films, il n'y en a aucun où il n'y ait pas un procès, la justice, le droit. Donc c'est vrai que forcément, on sent que Pisiewicz, dans sa thématique, est très présent. Kieślowski, ce qui l'intéresse, c'est d'étudier l'être humain. C'est un observateur sensible. Par contre, Christophe Piskiewicz, lui, il a une très grande expérience des jugements et aussi forcément de tout ce qu'il y a derrière un jugement. C'est pourquoi c'est arrivé, pourquoi, par exemple, pour « Tu ne tueras point », donc il y a la version filmée de l'épisode 5 du Décalogue, pourquoi est-ce que c'est si difficile de tuer quelqu'un ? Un meurtre, c'est quelque chose de sale, de gris, de compliqué. Voilà, donc tout ça, Piskiewicz amène son expérience. Il décrive à quatre mains les scénarios, et pendant ce temps-là, Piskiewicz est toujours avocat. Et après, il va devenir sénateur aussi.
Ursula Lesiak, vous êtes la monteuse de blanc et vous êtes aussi la traductrice dans la salle de montage entre Christophe Keschlowski et Jacques Vita. C'était pour Bleu, Rouge et la double vie de Véronique. Racontez-nous une journée de montage avec Christophe Keschlowski.
C'est sûr que Christophe Keschlowski, dans tous les métiers de cinéma, qu'il préférait, c'est le montage. Donc ça veut dire que, d'après ce que j'ai vu, il passait assez rapidement le tournage. Bien sûr, avec un grand professionnalisme, mais il voulait se vraiment retrouver dans la salle de montage, et ça, c'était la plus grande joie, car c'est là où il bâtissait, où il faisait ses films, où il construisait, où il avait un plaisir énorme. Donc, une journée de montage, déjà, pour vous dire que c'est quelqu'un qui abordait le montage d'une manière très classique, ce qui est maintenant très rare. Car classique, ça veut dire, après le tournage, voir la roche. Mais il fallait que toute l'équipe voie la roche. C'est pas tout simplement que lui, avec son assistant ou avec le chef monteur. Non, c'est toute l'équipe était impliquée dans le film qu'on faisait ensemble. Car c'est un réalisateur qui répétait très souvent que le film, c'est un œuvre de beaucoup de gens. Hein. C'est pas seulement une personne. Il y a un chef opérateur, il y a des assistants, il y a des acteurs. C'est collectif. C'est pour ça, collectivement, il voulait qu'on voit les roches. Et c'était énorme comme joie, parce que chaque personne voyait un peu les fruits de son travail de la journée. Donc, ça veut dire qu'on pouvait repérer les fautes qu'on a fait. On pouvait discuter ce qu'on a fait pas bien, qu'est-ce qu'on a fait très bien. Et c'était une ambiance aussi qui, en fait, liait tout le monde. Hein, parce que c'est pour ça, cette équipe-là, que Christophe a formé, ou bien sur la double vie de Véronique, ou sur Trois couleurs, hein, c'est lui qui a formé l'équipe. Ça, c'est lui qui était le chef, ce qui est très rare aussi, parce que c'est lui qui choisissait les gens. Et ces gens-là étaient impliqués du début jusqu'à la fin. Après, dans la salle de montage... généralement, c'était très spécial, parce que comme on faisait Trois couleurs en même temps, ça veut dire qu'il tournait, par exemple, le bleu dans la journée, et le soir, on montait déjà, on commençait à monter le bleu, ou bien il tournait des parties de rouge, on commençait aussi à monter le rouge. Ça veut dire qu'on était sur trois films en permanence, au montage. Quand il y avait le tournage en Pologne du blanc, en même temps, on le montait le soir. Quand on était en Suisse, on montait le bleu, mais on tournait le rouge. Lui, c'était quelqu'un d'exceptionnel, qui n'avait aucun problème avec ça. Hein. Il travaillait énormément, mais nous, il fallait qu'on suive. Hein, donc, c'était... Mais avec Christophe, c'était quelque chose que... lui, quand il a demandé des choses, il demandait beaucoup, parce qu'on travaillait énormément, mais c'était toujours logique. Il n'y avait jamais une demande qui nous semblait un peu légère. C'était toujours très professionnel. Quand il engueulait les gens, c'était très professionnel et il exigeait beaucoup, mais c'était formidable parce que tout le monde était vraiment d'accord et on apprenait énormément. Pendant les projections de Roche du soir, il signait déjà des choix. Ça veut dire, il disait, voilà, par exemple, première sur deux, troisième, la meilleure, l'œil qui se ferme, c'est le mieux. Donc, il y avait toujours une assistante qui marquait les remarques. Et ensuite, on repassait les roches avec toutes ces remarques-là. Et attentivement, on s'est posé la question, comment couper. Il était très attentif à chaque détail dans les roches, à chaque clin d'œil de comédien, à chaque parole. Et puis voilà, après on faisait des marques. Et Après, il n'était plus là. Je coupais, par exemple, ou Jacques qui coupait. Et puis, on s'est revoyé à nouveau pour revoir les premiers montages et discuter selon ça.
Paris, vu par Krzysztof Kieślowski, nous arpentons la capitale pour retrouver les lieux de tournage du réalisateur polonais à Paris. Et nous sommes arrivés dans une rue proche du Panthéon. C'est la rue Mouffetard, une rue très pittoresque, une rue en pente d'ailleurs, avec un café qui porte le nom de la rue, qui est le Bistrot Le Mouffetard. Et une petite musique, Alain Martin, que l'on entend là dans nos oreilles.
Voilà, alors justement, une particularité aussi de la collaboration de Kieślowski, c'est l'arrivée dès le film Sans fin, donc avant le décalogue, d'un musicien qui s'appelle Zbigniew Preissner. Et ils produisent ensemble les musiques des différents films. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on entend une musique de Zbigniew Preissner, on peut penser à un film de Kieślowski. Et quand on regarde un film de Kieślowski, on est baigné par la musique de Preissner. Contrairement à d'autres compositeurs qui travaillent sur un film achevé ou quasiment achevé, Preissner, du fait des liens d'amitié qui se tissent rapidement avec Kieślowski, il va travailler très en amont. C'est-à-dire même dès l'écriture du scénario, il est présent. Comme beaucoup de ses coéquipiers, il intervient légèrement sur le récit. Encore plus sur Bleu, qui est une histoire de musicien. Donc c'est sûr qu'il y a un conseil à ce niveau. Rapidement, il devient le compositeur attitré de Kieślowski.
Comment vous connaissez cette musique ?
J'invente toutes sortes de choses. J'aime jouer.
Alain Martin, combien de sucre dans votre café ici, dans ce bistrot Le Mouffetard, rue Mouffetard ?
Alors, peu importe le nombre de sucre, par contre, pas n'importe quel morceau de sucre. Parce que Kieślowski a tourmenté ses équipes pour trouver le bon sucre. Kieślowski était très attentif à la manière dont le spectateur percevait les choses, les détails. Et parmi ces détails, il y avait le fait que Julie trempe un morceau de sucre dans son café, songeuse, et ce morceau de sucre, pour Kieślowski, il fallait qu'il s'imprègne de café à peu près en 3 secondes. Pas moins, pas plus. Donc, les assistants ont passé plusieurs jours à trouver les bons morceaux de sucre.
Et je pense aussi au décalogue 2, où une abeille ou peut-être une guêpe monte le long d'une paille et sort d'un bocal ou d'un verre et signifie que le malade qui est dans le lit d'à côté va peut-être guérir. D'où vient ce souci de maniaquerie, ce souci du détail de Krzysztof Kieślowski ? Parce que c'était quelque chose de permanent chez lui, aussi bien dans sa vie professionnelle que sa vie personnelle.
Je pense qu'il a un côté jusqu'au boutiste. J'ai parlé de ses capacités pour la construction. C'était un très grand bricoleur. C'était quelqu'un qui s'intéressait à la mécanique. C'était un constructeur. Il montait, il démontait. Et donc, ses récits aussi, il les construisait avec une mécanique précise. Peut-être qu'il avait hérité un peu les qualités d'ingénieur de son père. Donc, une intelligence, des choses comme ça. Et donc, toute construction réussie, ça passe par le souci du détail. Mais c'est un souci du détail qu'il partage avec les gens avec qui il travaille, notamment les chefs opérateurs.
Alors ça, c'est une autre anecdote qui concerne donc la question qu'on s'était posée, si le film blanc est drôle ou pas. Donc le film, déjà, il était dans les salles et on se retrouvait avec Christophe dans plusieurs salles à mesurer le rire. Donc, on se pose la question où les gens rigolent. Et très souvent, les gens riaient là où on ne riait pas à nous. Donc, c'était vraiment formidable parce que, en fait, ces films étaient drôles. Les spectateurs riaient beaucoup plus que nous, on a pensé qu'ils vont rire. Mais vraiment, on s'est retrouvés pendant la projection dans les salles de cinéma. Et on s'est même posé la question si on ne va pas couper encore un plan là en allant dans la salle du projecteur. Et en faisant un prisonnier projectionniste, c'était vraiment un grand, grand souvenir que j'ai aussi. C'était un bon vivant, malgré toutes ces interviews qui étaient très, très sérieuses. Hein. Mais il y avait toujours le temps de la fête et le temps d'une grande, grande concentration, vraiment partagée très justement, et on avait un joie énorme.
Christophe Kistowski, vraiment, c'était quelqu'un qui était... qui avait une profonde tendresse, je crois, pour les gens. Il a raconté des films durs, comme Tu ne tueras point. Il a parlé de choses difficiles. Mais jamais il a jugé ses personnages. Il a toujours eu certaines tendresses qui questionnent. Et dans ces films, il n'y a pas juste un personnage avec sa vie. On voit qu'à côté, il se passe ceci, et à côté, il se passe cela. Et ça va interférer ou non, mais c'est là. Et je crois que c'est une dimension qui était importante. D'ailleurs, cette citation qui était de lui, qui dit que dans la vie, il y a autre chose que le coca et la paille, et les voitures qui vont vite. Il y a quelque chose, bon ou mauvais, je ne sais pas, mais autre chose. Et je crois que ce autre chose, c'était vraiment tout son cinéma.
Alain Martin, il y a beaucoup d'enfants qui jouent ici, Square Saint-Médard. En face de nous, nous sommes au bas de la rue Mouffetard. Et Kieślowski a aussi planté sa caméra là.
Oui, puisqu'il observe Square Saint-Médard, donc tout à fait en bas de la rue Mouffetard, donc dans le quartier de Julie. Il va dans ce qu'il aime de plus en plus faire dans la fiction, c'est-à-dire observer d'une manière sensible. On a souvent utilisé la comparaison avec un chirurgien, c'est-à-dire qu'il utilise un scalpel, il va essayer de chercher ce qui se passe sous la peau. Parce que comment décrire l'âme humaine avec le cinéma, en filmant les gens et les objets. Donc il s'approche de plus en plus, il y a des cadrages très serrés, et là il observe Julie, qui est dans ses pensées, dans son deuil. D'ailleurs, plusieurs fois, les cris des enfants reviennent. Et ici, il y a une chose qu'elle ne remarque pas, parce qu'elle est au soleil, elle ferme les yeux, et elle ne voit pas une vieille dame. Une vieille dame qu'on rencontre souvent dans les films de Kieślowski, et qui, justement, nous montre comment il sait observer les gens qui n'ont pas du tout le même rythme de vie que nous. Cette femme essaye péniblement d'introduire une bouteille dans un conteneur. Julie ne la voit pas, donc ne l'aide pas. Carole, dans blanc, de la même façon, est perturbée par son divorce. Il se retrouve à la rue, donc il ne prête pas non plus attention à une autre femme qui également pousse une bouteille dans un conteneur la nuit, dans blanc. Il n'y a que dans Rouge, puisque Rouge est le troisième volet de la trilogie et normalement un message aussi d'espoir basé sur le thème de la fraternité. Et là, Valentine va donc aider la vieille femme à pousser cette bouteille pour la rentrer dans le conteneur.
Et la boucle est bouclée, finalement.
Ouais. Ces personnages sont des personnages récurrents. Alors, il y a un autre personnage récurrent important, c'est un jeune homme qui a été imaginé par Kieślowski dans le Décalogue, qui est le lien entre les épisodes, qu'on a coutume aussi d'appeler le témoin. Donc un observateur, quelqu'un d'extérieur au récit, mais qui donc fait vraiment la liaison entre les différents épisodes et qui apparaît, là encore, à des points clés du récit. C'est-à-dire, par exemple, quand Jacek, le meurtrier de Tu ne tueras point, est dans un taxi et s'apprête à commettre un meurtre avec une corde à la main, le taxi s'arrête à une barrière sur un chantier et le témoin, donc toujours ce même jeune homme qui est joué par un autre acteur polonais important qui s'appelle Artur Barchis, ce jeune homme, il a un regard très particulier. C'est un signal. Et donc là, on retrouve le leitmotiv kieślowskien. Peut-être que si tel acte, telle action, tel geste ne s'était pas produit, peut-être que tout aurait été différent.
Christophe Zanussi, en 1993, Kieślowski décide d'arrêter la réalisation. Il vient de recevoir le Lion d'or à Venise pour Bleu, il vient de recevoir l'Ours d'argent à Berlin pour Blanc. Comment avez-vous interprété sa décision ?
Il disait « Je ne vais pas quitter la scène, quand le public est déjà ennuyé. Je vais quitter la scène quand je suis admiré. » Et c'était sa décision, d'après moi très arrogant. Je suis convaincu qu'il aurait changé cette décision, mais il n'a pas vécu assez longtemps. Et je pense qu'il avait aussi une certaine prémonition que sa vie s'approche à la fin.
Parce qu'il était fatigué à l'époque déjà.
Il était fatigué, mais c'est aussi son cœur qui ne fonctionnait pas. Il était aussi un fumeur et il était sans ses cigarettes qui l'ont tué. Et il savait ça. Il était très dur avec les étudiants et il les disait toujours « ça vaut pas la peine de vous enseigner, si vous fumez, vous allez mourir jeune ». C'était macabre, mais c'était honnête. Et malheureusement, il est mort jeune lui-même. C'est jusqu'au maintenant, je les trouve proches, je pense de lui. Je lui pose des questions quand j'ai des doutes. Et j'essaie d'imaginer Christophe, comment aurait-il réagi au problème que nous avons aujourd'hui.
Dans quel état physique et psychologique était-il quand il a terminé Rouge, le montage de Rouge, donc avant l'abandon du cinéma?
Bon, malheureusement, il était très, très fatigué, parce que physiquement surtout, car de faire trois films, je ne sais pas, c'était 2 ans, ou au montage, tournage, déplacement, toujours en mouvement, c'était très, très, très difficile. Mais bon, je pense qu'en même temps, c'est lui qui a décidé, hein. Je pense qu'il avait une possibilité de ralentir, mais il était comme ça, hein. Tout était en urgence. Je me rappelle qu'on a monté déjà à Paris, donc ça veut dire que tout le film était déjà tourné et on était en train de finir les bleus, monter en même temps les blancs et commencer les rouges. On lui a acheté un lit dans la salle de montage. Et alors, parce que il était fatigué, et je demandais à mon assistante qu'elle appelle la production, et on lui a amené une petite lit, et il a dormi 3 heures par jour, et c'était formidable parce que on travaillait, il y avait un bruit fou, et il dormait entre la pellicule comme un bébé. Et grâce à ça, il s'est reposé un peu.
Donc, mais il fumait aussi beaucoup, non? La salle de montage devait être envahie de fumée.
Je pense que c'était la cause de sa mort aussi. Hein. Donc, il fumait. Moi, je fumais 2 paquets. Lui, il fumait 2 paquets. Ça veut dire quand on rentrait, on ne voyait plus rien. On ne voyait que de la fumée. Mais voilà, on a compris trop tard. Moi, j'ai compris sa mort. J'arrêtais de fumer.
Je me souviens qu'après le décalogue, l'un des journalistes lui a posé une question, est-ce qu'il croit en Dieu? Il a dit, je ne sais pas, mais même si Dieu existe, ça veut dire qu'il dort, car visiblement, il ne voit pas toute la cruauté de ce monde.
Christina Yanda, s'il fallait retenir une photo, une image, un moment de votre collaboration avec Christophe Kieślowski, qu'est-ce que ce serait?
Quand il a fait le montage du film, je l'ai rencontré 2 semaines plus tard et il m'a serré dans ses bras sans me dire un seul mot.
Et
il est parti, il suivait toujours son chemin.
Christophe Kieślowski, 1993.
Cały czas jak się robi zdjęcia, to się chce, żeby się już wreszcie skończyło. Jak się kończy, to wtedy wszystkim jest okropnie smutno, że już się skończyło. Taki smutek, który...
Pendant le tournage, on se dit vivement la fin. Et le dernier jour, tout le monde est triste, parce que c'est terminé. Cette tristesse qui reste est un sentiment très fort, comme pendant la dernière fête. D'un côté, ça se termine, mais les contacts, les amitiés persistent. Et tout le monde fait en sorte qu'il n'y ait pas de rupture très violente, que la rencontre ne s'achève pas.
Imaginons qu'il nous fasse une petite blague. Parce que je m'aperçois en vous écoutant qu'il était très joyeux à la maison. Finalement, c'était quelqu'un qui entraînait les autres. Admettons qu'il nous fasse une blague et qu'il revienne dans ce café Cultura, aujourd'hui à Varsovie, nous dire bonjour. Comment...
Ça, c'est une blague. C'est une très bonne blague.
Comment, à votre avis, filmerait-il tous les gens qui sont autour de nous, les gens aussi dans la rue, qui regardent leur smartphone avant de regarder les autres ?
Je fais très souvent des rêves comme ça, qu'ils reviennent. Et je me dis, mais pourquoi tu m'as jamais dit que tu es vivant pendant 20 ans ? Donc je fais des rêves comme ça, mais je n'ai jamais pensé en fait comment il ferait avec des smartphones, etc. Il était accro au Game Boy. Les gens ne le savent pas vraiment, mais je crois qu'il a dû, à un moment donné, il y avait justement tellement de stress, tellement de situations stressantes autour de lui, qu'il s'est acheté un Game Boy. Et il adorait en fait tous ces nouveaux gadgets, des choses qui sortaient. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, mais il avait le premier ordinateur qui est sorti. Il en avait. Il travaillait sur l'ordinateur à l'époque où c'était pas tellement connu. Et il a eu sa Toshiba. Il était super fier. Il a tout appris. Il a tout appris tout de suite. Et donc, je crois que il aurait peut-être été un peu indulgent envers les smartphones, je crois. Mais le fait d'avoir un bon nouveau iPhone avec toutes ces applications possibles, etc., je pense qu'il en a eu, sûrement. Et j'imagine qu'il ferait beaucoup d'efforts pour ne pas l'utiliser tout le temps, pour ne pas donner trop d'importance à ces gadgets-là. Mais je pense que ça serait difficile à un moment donné. C'était Christophe Kieślowski pour L'amour de l'autre. Un documentaire de Dominique Prussac réalisé par Anna Schmuck. Merci à Irène Jacob, Alain Martin, Christina Yanda, Marta Rignac, Ursula Lesiak, Jacek Petritski et Christophe Zanussi. Prise de son, Frédéric Kérou. Mixage, Éric Boissé. Les films de Christophe Kieślowski sont disponibles en DVD et Blu-ray MK2. Une vie, une œuvre. Attaché de production, Claire Poinsignon. Coordination, Irène Omelianenko.
Cette émission est disponible en podcast et réécoute sur le site de France Culture. Dans quelques instants, rendez-vous avec Étienne Klein pour la conversation scientifique. Samedi prochain, Une vie, une œuvre sera consacrée au réalisateur Elia Kazan.